Alors l'enfant arrive à l'école maternelle. Le programme de 2015 donc va vraiment développer un certain nombre de compétences et de compétences attendues vis-à-vis dans le domaine de l'oral, à la fois dans l'introduction du programme, je vous le disais, à la fois dans tout ce qui concerne les compétences transversales, l'oral est décliné à chaque moment des recommandations de ce programme de l'école maternelle, et puis dans vraiment spécifiquement les compétences à construire à l'oral, avec différentes strates de compétences, dont la première qui s'appelle « Oser entrer en communication », est vraiment ce qui va être... croisé avec ce qui va se passer en dehors de l'école. Oser entrer en communication, l'apprend à l'école et en dehors de l'école. Il s'agit du langage de situation, langage qui décrit, et du langage de communication premier. Par contre, ensuite, il y aura un certain nombre d'autres registres de langage, langage d'évocation, parler de ce qui n'est pas là, de ce qui a été, de ce qui va être, et puis langage de conceptualisation, commencer à parler de ce qui est décontextualisé, commencer à parler de ce qui n'est pas concret, à argumenter, à justifier, toutes ces compétences qui vont être des compétences scolaires, qui vont être proprement acquises à l'école. Donc, quand on constate que les enfants d'école maternelle ont ce bagage langagier si hétérogène, il ne suffit pas de se le dire en déficit, mais en se disant, ce bagage langagier qui est culturel, qui est affectif et qui est extrêmement puissant que l'enfant a, l'école maternelle va, bien sûr, pour lutter contre les inégalités scolaires, va pallier à l'hétérogénéité aux différences, mais aussi en s'appuyant sur ce qui a été fait déjà avant et ce qui continue à se faire à l'extérieur de l'école. Donc on le voit, ce langage se construit à l'école et en dehors de l'école, pas seulement dans la famille, mais également donc, avant l'école, dans les structures petite enfance, au moment de l'école, aussi dans les temps péri-extrascolaires de collectivités autres que ceux de l'école. Du coup, on peut parler donc, d'une coéducation langagière qui va se passer pour l'enfant pendant les temps scolaires et en dehors des temps scolaires. Et il est intéressant, de la même façon qu'on parle de coéducation sur les questions éducatives en général, que cette coéducation langagière soit activée par l'enseignant. Comment est-ce qu'elle va être activée par l'enseignant ? L'enseignant, quand il va s'intéresser à ce qui se vit à la maison, d'abord prendre connaissance de quelles sont les langues qui sont parlées à la maison, reconnaître le registre de langage, même quand il s'agit du français, ça n'est pas un registre de langage scolaire, c'est pas pour autant qu'il n'a pas sa valeur. Donc chaque fois que l'enseignant va s'intéresser à ce qui se vit à la maison, il va aider à ce que ces interactions, cette coéducation langagière soit activée. Chaque fois qu'il va expliquer, expliciter aux parents ce qui se vit à l'école pour que les parents rendent l'école plus lisible, puissent le comprendre et en parler avec leurs enfants, il va donc stimuler les interactions langagières hors de l'école, autour de l'école ou en dehors de l'école, de manière à stimuler le langage de l'enfant. Et puis, cette coéducation langagière, elle va agir aussi en situation de plurilinguisme. Alors, Nathalie y reviendra tout à l'heure. Là aussi, j'ai repris un document, cette fois-ci, pas des programmes, mais du programme d'accompagnement et du SCOL, qui dit « Pour les parents dont le français n'est pas la langue première, il convient de les rassurer quant à leur rôle et de les encourager à utiliser leur langue pour les échanges du quotidien, et y compris pour les échanges autour de l'école. » Le programme d'accompagnement et du SCOL, par exemple, donne l'exemple d'un enfant qui revient à la maison avec un livre de l'école. Il va raconter, comme il peut avec ses mots, cette histoire à ses parents. Ses parents peuvent tout à fait commenter cette histoire dans leur propre langue. Et l'enfant va faire de cet objet scolaire un objet aussi de la maison et arriver à continuer à avancer avec cet objet-là dans les deux langues, en français et dans la langue de la famille, qui va être reconnue comme une langue, effectivement, non pas seulement de situation, mais aussi d'évocation. Donc je passe sur le plurilinguisme puisqu'il va être développé. Alors nos petits parleurs dont Ise nous a si bien parlé, effectivement je me suis tout à fait reconnue en tant qu'enseignante de maternelle, parce que je le suis aussi par ailleurs. Dans les trois enfants qui ont été choisis tout à l'heure sont vraiment très caractéristiques, effectivement, un petit peu des trois catégories d'enfants qu'on retrouve souvent comme petits parleurs, qui sont les enfants allophones, comme Sharifa, donc l'enfant ne parle pas la même langue à la maison et à l'école. L'enfant plus timide, inhibé, qui n'ose pas parler en groupe. Et puis l'enfant plus en difficulté comportementale ou cognitive, ou entre guillemets en retard de langage, qui n'arrive pas à prendre la parole dans le cadre de l'école. Il est extrêmement utile de connaître les compétences langagières de cet enfant en dehors de l'école. C'est-à-dire de ne pas simplement mettre toute cette catégorie de petits parleurs, et c'est ce qu'a fait aussi Isu en disant « je m'intéresse à ces petits parleurs ». Finalement, l'élève allophone, est-ce qu'il parle ou ne parle dans sa langue ? Est-ce que dans la fratrie, les parents l'ont repéré comme étant un enfant qui a parlé comme tous les autres, ou bien qui est un peu plus en retard ou un peu plus en avance par rapport à l'acquisition du vocabulaire dans sa langue ? Est-ce qu'autour des actes quotidiens à la maison, il discute avec ses parents dans sa langue ? C'est très différent s'il le fait ou s'il ne le fait pas par rapport à la construction des compétences à l'école. L'élève timide, Est-ce que c'est la situation scolaire qui l'intimide? Est-ce que c'est le grand groupe qui l'intimide? Est-ce que à la maison, à la crèche ou avec ses cousins, il se comporte de la même façon ou différemment? Donc là aussi, ce sont deux manières différentes d'appréhender l'enfant en fonction de ses compétences langagières en dehors de l'école. Et puis l'élève qui est en difficulté plus cognitive ou de langage ou de prononciation, comment est-ce qu'il s'exprime en situation non verbale, en langage non verbal? Est-ce qu'il a accès à des situations complexes, comme on le voit tout à l'heure avec les marottes, par des gestes ou par des manières d'agir dans les jeux, par exemple, en montrant qu'il comprend, quel est le décalage entre sa compréhension et puis son élocution? Là aussi, on ne va pas agir de manière fine, pareil avec un petit parleur qui comprend tout ce qu'on lui dit, avec un petit parleur qui ne comprend pas, avec qui on a besoin de décortiquer toutes les actions. Donc voilà pourquoi la connaissance fine de chaque enfant, de ses compétences langagières hors école, est extrêmement importante pour l'aide à l'intérieur de l'école. Et puis pour tous ces enfants, toutes ces catégories d'enfants, effectivement, quelle est leur capacité d'expression non verbale, quelle est leur capacité de compréhension des situations. Du coup, pour conclure, on peut se dire que stimuler le langage hors école, c'est ce qui va servir l'apprentissage du langage à l'intérieur de l'école. Donc ça, c'est extrêmement important. Bien connaître le cadre familial, donc d'une part familial, d'autre part péri et extrascolaire, ça va servir l'enfant. Trop souvent, ce cadre-là, en ce qui concerne les enfants petits parleurs, il est trop vite considéré comme potentiellement déficitaire. Cet enfant n'est pas suffisamment stimulé à la maison, cet enfant n'entend pas le français à la maison. Alors bien sûr, on sait que les inégalités sociales jouent sur la qualité des interactions. Les interactions dont on a parlé, ce long processus, il est universel, il est interculturel. Pour autant, quand on est dans une très grande fratrie, quand on est dans des conditions d'hébergement très difficiles, quand on est préoccupé par la survie et la précarité, on n'est pas très disponible pour parler à son enfant. Ça, on le sait, les recherches l'ont montré, et puis l'observation au quotidien le montre. Mais même quand on est dans ces situations-là de précarité, les interactions existent. Et donc, au lieu d'être déploré pour leur absence, le rôle de l'enseignant peut être de les stimuler, de les encourager, quelles que soient les conditions. Comment ? En créant un certain nombre de dispositifs d'interface entre la famille et l'école. Tout ce qui se passe pendant le moment de l'accueil est extrêmement précieux. Toute la manière dont l'adulte et l'enseignant va parler à l'enfant devant les parents, va encourager les interactions. Tout ce qui se passe à travers les outils de passation avec la famille, comme les cahiers de liaison ou les sacs à histoire, ou un tas d'outils qui existent pour faire venir les objets de l'école à la maison. Toutes les interactions langagières qui se passent pendant ces interfaces et autour de ces interfaces sont autant de vrais outils d'apprentissage pour l'enfant. Du coup, l'idée, c'est que plus l'enfant sera stimulé et valorisé dans ce langage de situation qui continue à se construire hors école, et mieux l'école pourra jouer son rôle dans le langage décontextualisé, conceptuel, et qui ira vers le langage scolaire.